Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour c'est la dernière émission du mois de février, c'est ça. Avant la prochaine, qui sera bien sûr au mois de mars. Ça, je vous apprends rien. Je vais pas vous apprendre le calendrier.
Non, mais ça aide les émissions.
C'est ça. Mais on t'entend pas. Pourquoi on t'entend pas, Edith? C'est bizarre.
Ah, je ne sais pas. Tu m'as coupé la parole.
Bah, je sais pas, mais à mon avis, ton micro ne doit pas être bien branché. Alors, prends le micro d'à côté. Prends le micro d'à côté, ce sera mieux. On va résoudre ce petit problème.
Voilà. Est-ce que l'on m'entend?
Là, on t'entend.
Oh, formidable.
Donc, c'est le micro qui n'était pas branché.
Bon, vous n'avez rien loupé, auditeur, je vous promets. Je voulais juste dire que peut-être nos émissions de radio ponctuaient notre agenda annuel. Voilà.
C'est ça. Et donc, vous avez entendu Edith qui est avec nous ce soir. Et aussi Dominique.
Bonsoir.
Ah, on t'entend bien, Dominique. Donc là, tout marche bien. Voilà. Pour animer l'émission ce soir, donc on a pas mal de sujets. On va vous parler bien sûr de la situation en Ukraine. C'est malheureusement aujourd'hui le 4e anniversaire du début de l'invasion des Russes, de l'armée russe en Ukraine. Donc c'est Dominique qui va vous en parler. On va parler aussi de Maasai en Afrique. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est Edith qui va vous en parler. Et aussi de ce qui se passe par rapport à Francesca Albanese et toutes les récriminations qui sont faites vis-à-vis d'elle et qui rappellent effectivement le conflit toujours en cours dans la bande de Gaza. Donc ne quittez pas l'écoute avant 20h et même après pour l'émission du laboratoire. Donc pour commencer l'émission, moi j'ai décidé très, très arbitrairement que je voulais vous parler d'une bonne nouvelle. Alors je suis en train de rechercher mon petit papier qui va avec, voilà. Et donc cette bonne nouvelle, c'est, alors pour ceux qui nous écoutent depuis des années et qui participent à nos campagnes, on va vous donner un nom, c'est Marielle Franco, qui est une
Marielle.
À chaque fois je me trompe, c'est Marielle Franco, qui est une militante des droits humains à Rio de Janeiro au Brésil, et qui malheureusement a été à ce titre-là, elle était conseillère municipale à Rio, qui malheureusement à ce titre-là a été assassinée, ainsi que son chauffeur, en mars 2018. De plusieurs balles dans la tête.
Mais ça fait longtemps, Didier.
C'est effectivement 2018. Alors, on a agi pour elle dans une campagne qui s'appelait à l'époque 10 jours pour signer, en 2018 ou 2019. Ouais. Ça, j'ai pas vérifié, mais enfin, ça remonte.
Je vois tout à fait sa photo.
Tout à fait.
Une jeune femme dynamique.
Et donc, on a réussi à mobiliser, c'est ce qui est dit dans l'article, au niveau mondial, dans cette campagne, on a réussi à mobiliser plusieurs centaines de milliers de signatures. Il y a eu pas mal d'actions d'Amnesty. On a appris dans le courant des années précédentes que les policiers soupçonnés d'être les assassins de Marielle Franco et de son chauffeur avaient été arrêtés, ainsi qu'un pompier qui était sans doute complice. Et on a appris aujourd'hui, donc c'est très récent, que le procès qui a été instruit pendant des années pour les juger s'ouvre enfin. Donc peut-être que les assassins de Marielle Franco, on peut l'espérer, vont effectivement être condamnés. Donc voilà ce que dit Amnesty. Les enquêtes de la police civile et des services du procureur de l'État de Rio ont permis d'identifier deux personnes soupçonnées d'avoir perpétré le crime, Elcio de Queiroz et Ronny Lessa. Ils font actuellement l'objet de poursuites pénales. Ces enquêtes ont également permis de découvrir que d'autres personnes étaient indirectement impliquées dans le crime, notamment par leur dissimulation des armes et des obstructions des enquêtes. C'est le cas de ce pompier. Depuis le début de cette affaire, nous, Amnesty International, suivons de près les avancées. Pendant les premiers mois, nous avons mené des actions de campagne le 14 de chaque mois afin de faire pression sur les autorités et de mobiliser des personnes en faveur de la défense des droits humains. Nous avons organisé des réunions à propos de l'affaire avec les autorités, notamment avec le gouverneur de l'État, Wilson Witches, et le procureur général de l'État de Rio de Janeiro, José Erwando Gusem. Des proches de Marielle Franco ont également assisté à ces réunions. Bien sûr, c'est la section brésilienne d'Amnesty qui était à l'œuvre pour tout ça. À l'occasion de l'anniversaire de son assassinat, et grâce à la mobilisation nationale et internationale, nous avons réuni près de 800 000 signatures au niveau mondial, c'est cette fameuse campagne des 10 jours pour signer, où nous demandions la résolution de l'affaire. La visibilité et la pression publique que nous avons générée dans le cadre de cette affaire, à l'échelle nationale et internationale, ont ainsi contribué à faire avancer les enquêtes. Voilà. Donc c'est tout à fait un exemple positif du travail fait par Amnesty International, même si c'est un travail effectivement à très long terme. Voilà.
Mais on ne lâche rien.
On ne lâche jamais, effectivement. Par contre, alors, on va passer d'une bonne nouvelle à une moins...
Oh, on pourrait... T'avais moins... un petit commentaire en plus sur le Brésil, Didier.
Oui,
quand c'est même. Vrai. Bon, on peut se le permettre, allez.
Oui. On pense aussi que... Alors ça, c'est pas Amnesty qui le dit, mais c'est... quand on voit les majorités politiques qui sont à la tête de l'État brésilien, on peut penser que l'élection de Lula en tant que président de la République a aussi... était positif pour la suite de la procédure d'inculpation de ces assassins et du fait qu'ils soient maintenant traduits en justice. Parce que du temps de l'ancien président d'extrême droite Bolsonaro,
C'était un peu bloqué.
Il avait manifesté, donné son opinion en disant qu'il était hors de question que des policiers, quels que soient leurs actes, soient jugés. Les choses ont changé avec Lula, et tant mieux. Voilà. Donc, Dominique, tu voulais nous parler de l'Ukraine, triste anniversaire aujourd'hui.
Oui, puisque on entre dans la cinquième année de la guerre, de l'invasion de la Russie en Ukraine. Et la Russie intensifie ses attaques contre le réseau énergétique ukrainien. La majorité du pays fait face à des coupures d'électricité massives, privant les habitants de nourriture, de chauffage ou de moyens de communication au cœur d'un hiver glacial. Ces attaques contre les populations civiles violent le droit international humanitaire et doivent faire l'objet d'enquêtes. Les sirènes d'alarme résonnent partout, toute la nuit en Ukraine. Depuis le mois d'octobre 2025, la Russie mène une campagne de frappe aérienne incessante contre les infrastructures énergétiques en Ukraine. Les forces russes assiègent le réseau énergétique alors que la population ukrainienne vit un des hivers les plus froids depuis de nombreuses années. Les températures sont descendues jusqu'à moins 17 degrés à Kiev lors du mois de janvier. Donc l'équipe, basée en Ukraine, rapporte des coupures d'électricité qui durent en moyenne 10 à 12 heures et qui parfois s'étalent sur plusieurs jours. L'une de nos collègues, Véronica Puha, témoigne du froid qui l'empêche de travailler dans son appartement où la température peine à atteindre les 7 degrés. Les coupures entravent le travail de nos collègues qui enquêtent sur les violations commises par les autorités russes en Ukraine. La population ukrainienne fait face à des coupures d'électricité massives qui les empêchent de se nourrir, de se chauffer ou de recharger leurs moyens de communication en pleine vague de froid qui paralyse le pays. La situation humanitaire en Ukraine est de plus en plus catastrophique. Ces frappes font partie d'une stratégie assumée de la Russie pour répandre la terreur et détruire le moral de la population ukrainienne. Nos équipes d'Amnesty International Ukraine sont allées à la rencontre d'habitants à travers le pays pour récolter leurs témoignages lors de ce terrible hiver. La Russie ne se contente pas, ça c'est la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Kalamar. La Russie ne se contente pas de mener une guerre d'agression contre l'Ukraine. Elle soumet aussi l'ensemble de la population civile à une campagne d'une extrême cruauté. En Ukraine, 75% de la population vit dans des villes qui sont caractérisées par une densité d'immeubles à plusieurs étages, dépendant de grandes centrales thermiques. Des cibles de choix pour les forces russes. Une frappe qui atteint sa cible peut affecter des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes à la fois. L'absence d'électricité signifie souvent l'absence de chauffage et d'eau courante. Impossible de faire cuire des aliments. Souvent, même lorsque l'électricité est rétablie, le chauffage reste hors service à cause des dégâts causés aux canalisations. Dans ces conditions, il est aussi difficile d'avoir accès aux soins de santé ou à l'éducation, avec des hôpitaux qui peinent à fonctionner et les écoles qui restent fermées. Là, c'est un témoignage. La température dans l'appartement ne cesse de baisser. Aujourd'hui, elle est de 12,5 degrés. La température de la classe de mon fils est de 11-12 degrés. Tous les parents ont décidé que les enfants n'iraient pas à l'école. Si l'enseignant a de l'électricité, les cours se feront à distance. C'est un peu fouillis, mais c'est de la faute de mon imprimante.
Non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Dominique récupère ses feuilles. Voilà.
Donc, 80% de l'Ukraine est affectée par les coupures d'énergie. 15% des immeubles résidentiels à Kiev sont sans chauffage depuis le 9 janvier 2026. 90% de la capacité de production d'électricité nationale est devenue inopérante. Les coupures d'électricité empêchent aussi de nombreux Ukrainiens de travailler. Certains sont obligés de travailler depuis chez eux, dans des températures glaciales. Sans chauffage, il fait tellement froid. Je travaille à domicile, vêtu de 4 couches de vêtements, avec bonnet et gants. Il y a des moments où l'alerte aérienne était active presque tout le temps, parce que les Russes lançaient des missiles un par un, 2 drones environ, toutes les heures. Donc il y a des systèmes D pour se réchauffer. Faute de chauffage électrique, les populations tentent coûte de trouver des moyens pour se réchauffer. Les astuces varient pour trouver un peu de chaleur. Tous les matériaux et équipements nécessaires, bonbonnes de gaz, réchaud portable, boîte chauffage, ont vu leur prix augmenter et certains sont devenus rares. Autre témoignage, une habitante de Dnipr. J'ai un petit réchaud de camping. Nous avons fait chauffer de l'eau et l'avons mis dans des bouteilles en plastique. Cela nous a aidé à ne pas geler pendant la nuit. Mon mari a acheté des briques. Nous les chauffons sur la cuisinière à gaz et les utilisons pour réchauffer l'appartement comme nous pouvons. Certaines personnes doivent recourir à des dangereuses techniques de survie comme installer des tentes dans leur chambre et s'éclairer avec des bougies à l'intérieur pour lutter contre le froid. Celles qui ont des cuisinières à gaz laissent le feu allumé pendant des heures dans une tentative désespérée de trouver une source de chaleur. Mais bien sûr, cela crée un réseau d'incidents graves. Pour faire face collectivement au froid et aux coupures d'électricité, des points de résistance sont installés dans les villes. Il s'agit de grandes tentes gérées par des services nationaux d'urgence, chauffées par de petits générateurs et ouvertes 24 heures sur 24. Les personnes peuvent s'y réchauffer, boire des boissons chaudes, manger un repas et recharger leur téléphone. Pour beaucoup, ces quelques heures passées dans ces installations sont les seules heures de chaleur dont ils peuvent profiter. Mais ces endroits restent inaccessibles pour les personnes âgées ou handicapées, faute d'ascenseurs. Ils sont condamnés à rester chez eux dans leurs appartements glaciaux. Les attaques de la Russie contre le réseau énergétique ukrainien révèlent l'intention de priver la population civile de moyens indispensables à sa survie, plutôt que d'obtenir un avantage militaire concret. Ces attaques violent le droit international humanitaire qui exige la protection des biens indispensables à la survie des civils. Depuis le début de l'invasion, la Russie méprise de façon flagrante le droit international, y compris les règles visant à protéger les civils en temps de guerre. La stratégie et les tactiques de la Russie, notamment l'utilisation continue d'armes non discriminantes et le ciblage délibéré de civils, ont causé des souffrances humaines de grande ampleur et ont eu de graves répercussions pour les personnes les plus vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées. L'ampleur et la forme de ces frappes aériennes sur tout le territoire montrent clairement qu'elles cherchent à endommager les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Notre organisation appelle une enquête rapide, approfondie et impartiale sur tous les crimes présumés au regard du droit international commis par les autorités russes. Nous exigeons la fin immédiate de l'agression russe contre l'Ukraine, ainsi que la vérité, la réparation et la justice pour toutes ses victimes. Alors, juste encore un petit mot. Où en est la justice internationale en Ukraine ? 4 ans après cette invasion, la justice avance en Ukraine. Des enquêtes sont ouvertes à plusieurs niveaux. Mais, pour qu'il y ait justice, il faut que les auteurs des crimes soient arrêtés et traduits en justice. 2 mandats d'arrêt internationaux ont été émis à l'encontre de Vladimir Poutine et de Maria Alekseyevna Vodabelova, c'est la commissaire aux droits de l'enfant en Russie, pour les crimes de guerre concernant la déportation illégale d'enfants en Russie. 4 autres mandats d'arrêt ont été émis envers les auteurs de crimes de guerre relatifs à la destruction d'infrastructures civiles. Mais pour que ces mandats d'arrêt aboutissent, la communauté internationale doit coopérer avec la justice. Or, des États, comme la Mongolie, continuent d'accueillir en grande pompe le président russe au lieu de l'arrêter. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un tribunal d'agression a été créé. Il a été fondé en juin 2025 sous l'égide du Conseil de l'Europe. Son fonctionnement devrait être précisé au courant de l'année 2026. Le bureau du procureur en Ukraine a ouvert plus de 100 000 procédures pour identifier les responsables de crimes de guerre commis par l'armée russe. Il s'agit d'identifier ces responsables. Il s'agit d'identifier les auteurs d'attaques contre les populations civiles, comme celle contre le théâtre de Mariupol, afin de rendre justice. Des enquêtes au nom de la compétence universelle sont également ouvertes en France. La compétence universelle permet à n'importe quel État de juger les crimes les plus graves, notamment lorsque ces crimes ont été commis à l'encontre de ses ressortissants. En France, des enquêtes sont ouvertes pour les crimes commis par la Russie à l'encontre de personnes ayant la nationalité française. C'est le cas du photojournaliste français Anthony Lalican, qui a été tué le 3 octobre 2025 par une frappe de drone russe. Voilà. Et je voulais juste ajouter une toute petite chose.
Vas-y, ajoute.
Il fallait, si vous pouvez, regarder Les visages de la guerre. C'est un documentaire qui est passé sur France 2, mercredi la semaine dernière, donc mercredi 18. Et c'est le docteur Chloé Bertolus qui opère toutes les personnes, tous les gueules cassées d'Ukraine, enfin, ukrainiens plutôt. Et c'est chef de service chirurgie maxillofaciale à l'hôpital Pitié. C'est elle qui a soigné Dominique Lançon. Philippe Lançon, qui a été à Charlie Hebdo. Voilà. Et c'est un reportage très intéressant. Elle est partie en Ukraine avec toute une équipe et ils travaillent vraiment à s'occuper des réparer les visages de tous ces militaires et même quelques tous ces blessés ukrainiens.
Tu nous redonnes le titre, parce que je ne l'ai pas vu, moi, ce reportage. Oui. Donc, merci de l'info. Tu nous redonnes le titre.
Sur Antenne 2.
Sur Antenne 2.
France 2.
Antenne 2, tu as quelques
Non, mais moi, je suis France Replay, j'aurais dit ça, puis après, j'aurais cherché.
Oui, sur France TV, France.tv. Voilà.
Les visages de la guerre.
Les visages de la guerre, okay.
Voilà.
Et donc, moi, j'ai entendu ce midi sur France Culture, alors, si j'ai mal compris, parce que j'ai pris la petite chronique en cours de route aux infos, d'après une juriste, l'Union européenne est en train de. Comment dire, de chiffrer le financement pour l'ouverture de ce tribunal international, etc., etc. Donc, ils sont en train de réfléchir à comment mobiliser des moyens financiers pour qu'ils puissent exister. Donc, les choses ont l'air de progresser petit à petit.
Bien. Voilà.
On voulait changer de pays et il te reste, ma pauvre Edith, il te reste 2-3 minutes avant
mais, la pause. Mais c'est pas musicale. Grave, moi je sais voyager très très vite.
On va aller en Afrique.
Voilà, donc la Tanzanie, donc un pays dont on parle. Vraiment pas beaucoup. Et moi, ce qui m'a. L'article, c'est un article de la chronique. Hein, donc, c'est parce que le titre de cet article, c'est La grande spoliation des Maasai. Et le peuple Maasai, c'est quand même aussi une façon de vivre qui est tout à fait respectable. Et c'est aussi un peuple premier. Donc, j'ai lu l'article et je vous en fais part. Une chape de plomb s'abat sur la Tanzanie. Un virage autoritaire amorcé par l'arrivée au pouvoir de la présidente de la République, Samia Suluhu Hassan, en 2021, s'est brutalement accéléré après l'élection présidentielle du 29 octobre dernier. Car après avoir disqualifié les principaux partis d'opposition sous prétexte qu'ils n'avaient pas signé le nouveau code de loi électorale, après avoir emprisonné des dizaines de membres de la société civile, la chef de l'État s'est fait réélire avec 98% des voix. À l'annonce des résultats, des manifestations éclataient partout dans le pays. En réponse, la police a ouvert le feu. Bilan, près de 2000 morts selon Che Dama, premier parti d'opposition. Quelques 240 manifestants ont été inculpés pour trahison, un crime passible de la peine de mort en Tanzanie. Dans le nord-est du pays, les Maasai, 430 000 sur le total de 71 millions d'habitants, observent cette répression massive avec inquiétude. Installés dans la vallée du Rift depuis 4 siècles, ces éleveurs semi-nomades sont la cible d'une campagne d'expulsion forcée débutée en 2022. Des dizaines de milliers ont déjà été délogés de leurs terres ancestrales. Dans les régions enclavées, la police les chasse à coups de fusil. Un rapport d'Amnesty qui date de 2023 recense une quarantaine de blessés par balle et une personne disparue. Et des dizaines de milliers de têtes de bétail ont aussi été confisquées, plongeant des villages entiers dans la pauvreté. Dans le parc du Ngorongoro, parc célèbre pour les safaris, accueillant 1 million de visiteurs par an et où vivent près de 100 000 Maasai, les autorités procèdent plus discrètement. Donc là, il y a le chef traditionnel Longo qui a été rencontré dans ce parc qui dit « Nous ne pouvons plus construire ni creuser de puits et plus aucun service public n'est assuré. La pauvreté a explosé et les jeunes partent. » Alors l'État invoque la conservation de la nature et soutient que la croissance démographique des Maasai menace le parc. Ces derniers pointent une vision néocoloniale de la nature africaine considérée comme vierge de ses habitants autochtones. Ils accusent le pouvoir de vouloir libérer l'espace pour des safaris touristiques. Une réserve de 1500 km² a ainsi été créée pour des lodges de luxe et des chasses de la famille royale de Dubaï. Depuis la réélection de Samia Sulu Hassan, les Maasai craignent une accélération des expulsions. Des milliers de logements en dur destinés aux déplacés sont en construction à 300 km de la vallée du Rift. Mais ceux qui sont relogés dénoncent un site inadapté. Après des années de lutte et des centaines de recours presque tous rejetés, les activistes commencent à baisser les bras. Le bain de sang post-électoral en a contraint plusieurs à fuir au Kenya. Avec la justice et les médias verrouillés, nous ne pouvons plus grand-chose et nous risquons nos vies. Je ne compte plus les menaces de mort, soupire Edouard Porenkwa, juriste et avocat exilé au Kenya après la présidentielle. Alors, le chef Longoy des Maasai, lui, refuse de se taire. Notre culture est en train de disparaître. Le monde doit savoir ce qui se cache derrière les safaris. Alors voilà, j'ai fait ma part, je vous ai dit.
Merci Edith, effectivement, où on voit que sous diverses formes, le colonialisme n'est pas vraiment mort.
Et les peuples autochtones ont du mal à rester à l'endroit où ils veulent vivre.
C'est ça. On vous passe tout de suite la première pause musicale, on se retrouve juste après.
Aha. SMP Caravayor. Desde el norte al sur, por todo el Perú, haciendo rap, dime quién eres tú. Desde los tiempos que era por respeto, hasta que se acaben todas las balas en el gueto. Del norte al sur, por todo el Perú, haciendo rap, dime quién eres tú. Hasta que se acaben todas las balas en el gueto.
Desde los tiempos que todo era por respeto.
Las calles de Lima conocen mi voz, como el rap del norte saben que no hay dos. Truco con timón, Coca-Cola con ron. Truco con timón, clásico como Big Pong. Como Héctor Lavoe junto a Willy Colón. Danor All Star poniéndole el sabor. Desde San Martín hasta Caravayor, deja que practiquen, lo nuestro es un don. La rima me sigue, yo soy su obsesión. La pista me escucha como inspiración. ¿Quién dijo que el rap estaba en extinción? ¿Acaso no escuchan mi fucking canción?
Desde el norte al sur, por todo el Perú, haciendo rap, dime quién eres tú. Desde los tiempos que era por respeto, hasta que se acaben todas las balas en el gueto. Del norte al sur, por todo el Perú, haciendo rap, dime quién eres tú. Hasta que se acaben todas las balas en el gueto.
Desde los tiempos que esto era por respeto.
Cuando se terminen todas las balas, dejo de fumar marihuana. Dejo de romper todas las pistas que me traigan. El rap firmó conmigo temporada ilimitada, para que el envidioso de mí hable como caga. Desde los tiempos de 30 en el micro abierto, entrenando en el cemento, otros perdiendo el tiempo, sampleando un bolero cantinero, un estudio en el cerro. Y ahora grabando temas, esquivando el encierro. Ya se planeó la ruta, tú sientes la rumba. Dos barrios se juntaron y los trafas pujan. No quiero que lo entiendas porque de eso nunca. Esto es el norte del rap, hijo de puta. Desde el norte al sur, por todo el Perú, haciendo rap, dime quién eres tú. Desde los tiempos que era por respeto, hasta que se acaben todas las balas en el gueto. Del norte al sur, por todo el Perú, haciendo rap, dime quién eres tú. Hasta que se acaben todas las balas en el gueto.
Desde los tiempos que esto era por respeto.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour la suite de son émission. Le morceau qu'on vient d'écouter, c'est un morceau d'un rappeur péruvien qui s'appelle Truco, et qui s'appelait, parce qu'effectivement ouais. il a été tué par la police lors d'une manifestation au Pérou l'année dernière, et donc c'était quelqu'un qui était... qui faisait beaucoup de rap, qui s'opposait à la corruption et à la violence d'État au Pérou. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas trop plu. Il y a eu pas mal de manifestations avec des débordements violents de la part de la police. Et lui, effectivement, il a payé de sa vie. Et il y a un article sur lui, là aussi, dans la dernière chronique. Et donc, c'est ce qui m'a donné l'idée. Moi, je connaissais pas du tout cet artiste, d'aller récupérer un morceau de lui qu'on vous a passé ce soir. Voilà. Et donc, pour la suite, c'est Dominique qui voulait vous parler, mais elle va vous le dire elle-même.
Eh bien, c'est un article de Pierre Aski, qui est tiré, bien sûr, de la chronique. Donc, chaque génération de journalistes traîne ses traumatismes, ses accidents de parcours qui vaccinent à vie. Pour la mienne, c'est la victoire des Khmer Rouges au Cambodge en 1975. La presse française la salua comme une libération, avant de découvrir que les nouveaux maîtres du pays allaient commettre un génocide. Un aveuglement sur la nature d'un mouvement de libération forcément pur, puisqu'il luttait contre l'impérialisme. Le cinéaste Ritika Phan a consacré sa vie à décortiquer cette tragédie. Dans « Rendez-vous avec Pol Pot » de 2024, il montre... j'ai perdu ma ligne du coup.
C'est pour qu'on t'entende mieux,
oui.
C'est
ça. Il montre comment le régime des Khmer Rouges a manipulé ses sympathisants occidentaux et la preuve jusqu'à ce que la vérité éclate. Et la presse, pardon. J'en ai conclu qu'à la manière dont certains mouvements armés libèrent leur peuple pèse lourdement sur leur façon de gouverner après, le plus souvent, aux dépens des droits humains. Je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à cette leçon de l'histoire en lisant le rapport d'Amnesty International consacré au Hamas palestinien, publié le 11 décembre dernier. Il contient des accusations graves sur le 7 octobre et ses suites. Le mouvement islamiste et sa branche militaire Ezzedine El-Qassam y sont accusés de crimes contre l'humanité lors de l'attaque de populations civiles en Israël ce jour-là, puis dans le traitement des otages détenus dans la bande de Gaza. Il va de soi, mais ça va mieux en le disant, que les accusations portées contre le Hamas et les autres groupes armés n'exonèrent en rien l'État d'Israël et son armée de ce qu'ils ont commis durant les deux années suivantes contre les civils palestiniens. Les crimes des uns n'effacent pas les crimes des autres. Ce n'est pas un jeu à somme nulle, ce sont des vies arrachées et des principes fondamentaux bafoués. J'ai eu récemment une conversation dérangeante avec un dirigeant politique proche-oriental qui défendait le 7 octobre au nom des crimes perpétués par l'autre côté. mais je n'ai pas attendu le 7 octobre pour me faire une opinion sur le Hamas. Lorsque j'étais correspondant à Jérusalem, au moment des accords israéliens,